Vous trouvez votre tapale et la vie morose. Oh. Alors bienvenue dans France Bleu Soir. On vous emmène rire au soleil jusqu'à 20h avec nos deux invités, François-Xavier Demaison et le réalisateur Fabien Antoniente pour la sortie de la comédie All Inclusive au cinéma. Mais avant cela, un petit tour du côté de l'actualité. Allez. Le journal de la rédaction, Frédéric Dorel, vous êtes là, bonsoir.
Bonsoir Arnold, bonsoir à tous.
Les TGV Sud-Est ont encore beaucoup de retard à rattraper ce soir.
Le trafic vers Lyon, Marseille et Perpignan a été ralenti toute la journée à cause d'une caténaire endommagée dans l'Yonne. Ce matin, nous ferons le point avec Laetitia Evelyne dans une minute. Le film de François Ozon, Grâce à Dieu, encore suspendu à une décision de justice. Elle sera rendue demain. Celle d'aujourd'hui est un oui. Diffusion autorisée mercredi, mais celle de demain pourrait lui couper l'herbe sous le pied. Nous serons en direct avec Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignages Chrétiens, pour commenter la situation de l'Église.
Une quarantaine de dossiers de disparition vont être rouverts pour voir s'ils ne sont pas liés à Nordal-Lelandais.
Une quarantaine sur 900 au départ, c'est le résultat de la cellule Ariane qui a fait des recoupements pendant un an. Les rassemblements contre le racisme et l'antisémitisme se multiplient. Une quinzaine de villes sont désormais concernées. Nous irons à Sarcelles, près de Paris, où vit une des plus importantes communautés juives de France. Lui est un des plus gros glaciers du pôle sud, le glacier Thwaites. Il menace de s'effondrer. Nous verrons ce que ça signifie avec Valérie Barbe. Et puis on va parler cinéma à partir
Mais
de 19h15 avec
Mais tout à fait, Frédéric Dorel, vous avez vu All Inclusive ?
Ben non.
Certainement l'émission qui vous donnera envie d'y aller.
Oui.
Voilà, c'est
D'accord.
dans un instant avec
Surtout
nos invités.
Si on a besoin de vacances.
François-Xavier Demaison, Fabien Antoniente.
France Bleu Soir, Arnold Derek, Frédéric Dorel.
Mais avant d'aller rire au cinéma, une nouvelle journée de galère sur le réseau SNCF.
Des centaines, voire des milliers de voyageurs ont été retardés à cause d'une caténaire arrachée dans l'Yonne. Résultat, des TGV loin de porter leur nom de grande vitesse. Entre Paris et Lyon, Marseille, Nice, Montpellier et Perpignan, ça tombe mal en période de vacances, hein, Laetitia Evelyne. Le trafic devrait reprendre dans une demi-heure, mais les trains auront encore du retard jusque tard ce soir.
Oui, tout à fait. Ce matin, il a fallu détourner l'ensemble des TGV par les lignes classiques, ce qui veut dire diminuer en fait la vitesse par deux, passer de 320 à 160 km/h. Conséquence, des retards moyens de 3 heures jusqu'à 5 ou 6 heures tout de même par endroit. Et des voyageurs excédés, comme l'a constaté notre reporter France Bleu Sophie Allemand, dans le train entre Paris et Dijon.
C'est 4 heures de retard qui nous mettent beaucoup dans l'embarras.
J'ai perdu une journée de travail. Je serai obligé de prendre une nuit d'hôtel, louer une voiture et attendre jusqu'au lendemain. Ça fera des frais supplémentaires.
J'ai envoyé un texto à mon chef, je lui ai dit que je ne serai pas là.
Il a bien compris ?
Oui, la SNCF, tout le monde connaît.
Alors, vétusté des infrastructures, manque de moyens, accidents, actes volontaires, la direction de la SNCF se contente de dire ce soir qu'une enquête interne est en cours pour déterminer les causes de cet incident.
Dommage, la SNCF qui préfère mettre l'accent sur ce qui a été fait pour les
voyageurs. Exactement, oui. Distribution d'eau, de boissons chaudes, de paniers repas à Lyon, à Marseille et à Paris, gare de Lyon, à Marchabi, le directeur d'établissement.
Rien que sur la gare de Lyon, ce sont plus de 3000 coffrets repas qui ont été distribués par 50 gilets rouges qui se sont déployés dès ce matin pour assister les voyageurs. Par ailleurs, pour tous les voyageurs qui ont enregistré un retard de plus de 3 heures, ils seront intégralement remboursés.
Et cela représente tout de même 6000 voyageurs. Au total, 12000 clients ont été contactés par mail ou par SMS pour être informés des retards.
12000 clients. Merci Laetitia Evelyne.
Les Français votent souvent avec leur porte-monnaie. On le voit ce soir avec la filière des œufs.
Pour la première fois, plus d'un œuf vendu sur deux est issu d'élevage alternatif. Ça veut dire que les images de poules élevées les unes sur les autres ont marqué les esprits et que les consommateurs changent leurs habitudes pour des œufs qui respectent la vie de la poule.
C'est demain finalement qu'on saura si le film de François Ozon, Grâce à Dieu, pourra être diffusé mercredi.
Pour l'instant, la justice ne s'y oppose pas. La décision rendue aujourd'hui est claire. Alors, en attendant de vous parler du jugement de demain qui pourrait tout faire basculer quand même, hein, voici les arguments que les juges ont mis en avant aujourd'hui. Jean-Philippe Deniaux.
Avec un raisonnement en trois points pour le tribunal des référés de Paris, à qui le père Prénat demandait à ce que la présomption d'innocence l'emporte sur la liberté de création. Tout d'abord, le tribunal estime qu'il n'est pas démontré que Grâce à Dieu contienne des éléments qui ne sont pas déjà connus du public au travers des articles de presse ou des livres déjà parus. Les magistrats disent ensuite que les spectateurs sont avertis en début et en fin de film que cette œuvre est une fiction basée sur des faits réels et que le père Prénat est présumé innocent. Enfin, et c'est là le plus intéressant, le tribunal signale que ce film sort donc très longtemps avant un éventuel procès du père Prénat qui est toujours pas audiencé et qu'il n'y a donc pas d'atteinte au caractère équitable des débats à l'audience comme ça aurait été le cas si le film était sorti juste avant un tel procès. Et les juges des référés de Paris concluent qu'un report de la sortie de ce film aurait constitué une atteinte grave et très disproportionnée à la liberté d'expression et de création en entraînant notamment des conséquences économiques insupportables pour le producteur et le distributeur.
Jean-Philippe Degnaud pour France Bleu.
Alors voilà pour le jugement sur le principe. Demain, c'est un autre débat qui sera tranché.
La psychologue du diocèse de Lyon demande que son nom soit retiré du film, ce qui pourrait aussi très bien repousser sa diffusion. Christine Pedotti, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens qui a lancé en septembre une pétition pour qu'une commission parlementaire enquête sur les crimes de pédophilie dans l'Église. Comment est-ce que vous réagissez ce soir à cette décision de justice, celle d'aujourd'hui donc ?
Alors je trouve que c'est une très bonne nouvelle parce que c'est un très bon film qui raconte bien, qui est... produit à partir des victimes, ce sont les victimes qui ont intéressé François Ozon. Et donc, en fait, on voit comment, petit à petit, dans la parole libérée, elles vont réussir, dans une fraternité, une amitié, etc., à reconstruire une partie de leur vie en osant dire la parole. Donc c'est un beau film, bien fait,
sur le fond, il n'est pas à charge.
Moi, il ne me semble pas. Alors, évidemment, c'est un objet cinématographique très étrange, puisqu'il est extrêmement proche de la réalité. Il décrypte la réalité d'un point de vue en faisant jouer par des personnages et des personnes que nous connaissons, comme par exemple le cardinal Barbarin. Donc, c'est vrai que c'est un drôle d'objet cinématographique, à mon sens, très réussi.
Parce que là, cette fois, il donne la parole aux victimes, des victimes que l'Église a oubliées, en fait. Hein.
C'est bien ça qui est intéressant. C'est que finalement, la longue et triste histoire de la criminalité dans l'Église catholique, c'est l'oubli des victimes. C'est une incapacité à envisager ce qui se passe du côté des victimes. Mmh. Et il est vrai que le film en question prend exactement cette perspective de regarder les choses du point de vue des victimes, et ce qui nous permet aussi de comprendre ce qui se passe dans, le psychisme et la vie relationnelle de ces jeunes hommes qui ont été abusés alors qu'ils étaient enfants.
Vous venez de sortir un livre sur les abus sexuels intitulé « Qu'avez-vous fait de Jésus, l'assistance coupable de l'Église ?» C'est une leçon aujourd'hui pour celui ou ceux qui voulaient le silence dans cette affaire pour vous ?
Alors c'est vrai que le silence est en train de se rompre, enfin, par bien des façons. C'est aussi nos sociétés hein, qui finalement entrent dans une forme de transparence où victimes passent de la honte au statut de plaignant et peuvent en appeler à la justice. C'est vrai évidemment dans les églises, on voit bien que c'est vrai aussi autour du mouvement de MeToo, etc. Voilà, c'est-à-dire... J'ose espérer que c'est la fin du silence. Donc c'est pour ça que finalement ce jugement qui va permettre à ce film d'exister contribue à rompre le silence aussi.
Et puis il n'y a pas que le père Prénat, il y a Monseigneur Barbarin, jugé parce qu'il est soupçonné d'avoir couvert les agissements du prêtre et dont le jugement sera connu dans une vingtaine de jours. Merci Christine Pedotti, directrice de la rédaction de Témoignages chrétiens. Bonne soirée à vous.
Merci.
Au revoir.
Tout est repoussé également pour les salariés de l'usine Ford à Blanquefort en Gironde.
Les discussions sur la reprise vont reprendre jusqu'à lundi prochain, sans mauvais jeu de mots. Il s'agit de s'assurer que le franco-belge Punch Powerglide vient avec suffisamment de commandes pour garantir la pérennité du site.
19h09, restez avec nous pour la suite du journal de Frédéric Dorel. On parlera des premiers rassemblements contre le racisme et l'antisémitisme. Ils ont lieu ce soir, c'est la réaction aux attaques de ces derniers jours. Nous irons à Sarcelles, en région parisienne. Où la communauté juive est importante. Et puis alors, le pôle sud, hein, c'est l'un des plus gros glaciers de l'Antarctique. Il menace de s'effondrer. Des mesures urgentes pour le climat s'imposent, nous dira Valérie Barbe. Mais d'abord, Frédéric, une quarantaine de personnes portées disparues pourraient avoir croisé la route de Nordal-le-Landais.
Oui, c'est le résultat des recoupements de la cellule Ariane. En un an, ces 7 gendarmes ont épluché 900 dossiers de disparition non élucidés, 900 cold cases. Celui de Jean-Christophe, disparu dans un festival de techno en Savoie, sa sœur Adeline Morin se bat pour faire avancer l'enquête.
La cellule Ariane n'a communiqué avec aucun membre de ma famille pour tenir informé, savoir si mon frère était oui ou non dans ces 40 dossiers. Nous, on attend plus du travail de la juge d'instruction qui a reçu notre plainte plutôt que de la cellule Ariane qui, pour l'instant, pointe des dossiers qui pourraient peut-être être liés à l'histoire de Monsieur Lelandais. Alors, de recouper tout ce trajet de vie de Monsieur Lelandais, oui, c'est très important, surtout pour les autres familles. Dans le cas de mon frère, nous, on n'a pas attendu qu'il y ait la cellule Ariane pour prendre une carte, se dire que les ossements du caporal Noyer ont été retrouvés à même pas une demi-heure en voiture de là où mon frère a disparu, pile poil au milieu du domicile de Lelandais à cette époque-là et du lieu festif où mon frère a disparu. Pour l'instant, il faut qu'on fasse confiance à la juge d'instruction.
Et la juge qui a promis à Adeline et sa famille que de nouvelles recherches auraient lieu autour du fort de Tamier où Jean-Christophe a disparu en 2011.
Le procès Air Cocaïne se déroule sans les deux passagers de l'avion.
Les avocats qui réclamaient leur présence n'ont pas obtenu satisfaction aujourd'hui. Des quatre Français interpellés en 2013 ne seront donc jugés que les deux pilotes de l'appareil.
La ministre de la Santé confirme la fermeture de la maternité de Bernay dans l'heure.
Parce que, dit Agnès Buzyn, le système de garde ne repose que sur un professionnel et des intérimaires, ce que nuance d'ailleurs l'obstétricien titulaire en question. Deux de ses collègues, dit-il, sont prêts à venir travailler à Bernay. Selon lui, les motivations du gouvernement sont purement financières.
19h11, les marches contre le racisme et l'antisémitisme commencent dès ce soir.
À Avignon ou Périgueux, par exemple, mais la plupart des rassemblements sont quand même prévus demain soir. Depuis quelques semaines, quelques mois même, les actes antisémites explosent, plus 74% l'an dernier. À Sarcelles, près de Paris, où vivent près de 15 000 juifs, par exemple, les habitants oscillent entre peur et fatalisme. Thomas Séchier.
Oui, ces derniers jours, Odeya, 17 ans, les a vécus péniblement.
Bah, je trouve que c'est quand même aberrant qu'en France, il y a encore de telles situations qui existent. On arrive à un point où on a parfois peur de marcher dans la rue.
De la peur et de la nausée aussi chez Élie, 24 ans.
C'est fatigant, on ressent un peu de peur et tout, parce que voilà, c'est toujours les juifs qui sont visés. On a l'impression d'être de revoir en fait ce qui s'est passé en 39-45, de revoir des croix gammées.
Pour Menahem, qu'on voit sortir de la synagogue, ce n'est même pas étonnant.
Et on a toujours des militaires autour, c'est genre, on se sent un peu habitué, c'est genre, c'est difficile à s'habituer à ça, quoi, mais... On vit avec là-bas. Alors une fois, moi je marchais ici, moi j'étais un juif, et j'entends plusieurs trucs.
On ressent aussi ce sentiment de fatalité chez Déborah, presque 80 ans, dont 50 à Sarcelles.
Quand il y a des crises, du chômage et tout, c'est les juifs qui payent. Pourquoi on les prend toujours en bouc émissaire? Nous nous sommes intégrés, nous n'avons jamais rien fait de mal à personne.
Alors le rassemblement de demain, il va faire du bien à Noah, élève de terminale.
Ça réconforte, parce qu'on se dit qu'il y a des gens qui défendent cette cause-là, qu'on n'est pas seul à penser ça, qu'il faut se révolter, quoi, qu'il faut montrer que c'est pas normal et qu'on est au 21e siècle et qu'il faut que ça change, quoi, faut que ça cesse.
Un reportage à Sarcelles, près de Paris, dans le Val d'Oise. Thomas Séchier, France Bleu Paris, cette fois.
Tout autre sujet plus léger, évidemment, les soldes qui se terminent demain. Si vous vous décidez au dernier moment, vous serez encore bien accueillis dans les commerces.
Parce que le bilan n'est pas extraordinaire. Les manifestations de samedi, de tous les samedis, les 14 derniers des Gilets jaunes, ont semble-t-il pesé sur les ventes.
On annonce encore une belle semaine pour la météo. De l'air chaud venu d'Afrique du Nord remonte vers la France.
Résultat des températures dignes d'avril. Et cette météo étonnante nous amène à parler climat.
Bah oui, parce qu'au pôle sud, la NASA s'inquiète pour un glacier qui menace de s'effondrer.
Un énorme trou de 300 mètres s'est formé en son cœur. Valérie Barbe, pourquoi est-ce que c'est si grave ?
Eh bien parce que la fonte du glacier Thwaites, qui est presque aussi grand que la Grande-Bretagne, a déjà fait monter la mer de 4%. S'il fond complètement, le niveau des océans grimperait d'au moins 60 cm, ce qui est énorme. Mais il y a pire. Comme les roches extérieures de Thwaites sont devenues très fragiles, sa chute pourra entraîner les autres glaciers, une sorte de terrible effet domino. Et cette disparition des glaciers déclencherait aussi la disparition de tout l'Antarctique. Et là, la montée des eaux serait de 3 mètres. Avec pour conséquence le déplacement forcé de 150 000 personnes, l'apparition de phénomènes météo extrêmes et l'arrivée de tonnes d'eau douce dans de l'eau salée, ce qui nuirait à la faune aquatique. Pour certains scientifiques, ce scénario est inéluctable. Mais soit on va direct dans le mur, soit on se donne un sursis en prenant d'urgence les mesures nécessaires.
Et c'est pour ça que des associations environnementales exhortent l'État français à agir avec une pétition qui réunit plus de 2 millions de signataires.
Une pétition qui menace de saisir la justice pour obliger nos gouvernants à prendre des mesures.
Le délai expire d'ailleurs demain. Merci Valérie.
On termine en musique avec le clip de Roi. C'est le titre qui représentera la France à l'Eurovision. Bah, ça y est, hein, c'est sorti en vidéo.
Et on y voit Bilal Hassani se préparer en coulisses et mettre notamment sa perruque blonde avant de rejoindre la scène et le micro. Le titre de Bilal Hassani, spécialement taillé pour l'Eurovision. Rendez-vous donc le 18 mai pour savoir si c'est bien la clé du royaume.
Ah, formidablement bien tourné, merci. Frédéric Dorel, Fabien Antoniente, réalisateur de All Inclusive, et François-Xavier Demaison vous attendent juste après la météo.